RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI et comme chaque jour pour vous parler de football, vous tenir informé de l'actualité du moment avec, eh bien, avec les Bleus à Clairefontaine où ils préparent les éliminatoires de l'Euro 2020. Un groupe où Didier Deschamps a effectué fort peu de renouvellement. Devait-il donner leur chance à de nouveaux joueurs comme le défenseur du Barça Clément Lenglet ou doit-il les intégrer plus lentement les nouveaux parmi les champions du monde? Choix sans doute cornélien pour le sélectionneur français. Antoine Griezmann va-t-il quitter l'Atlético? Les Colchoneros sont dans une mauvaise passe après leur élimination en Ligue des Champions et peut-être la saison 2 de la saga Griezmann, rester ou partir, est-elle lancée? Au moins dans Radio Foot, en tout cas, on en parlera. Le Barça aurait-il d'ailleurs encore des vues sur lui? Le Barça où son Messi vient d'inscrire un nouveau triplé. Enfin, un témoignage dans Radio Foot International, celui du papa de deux enfants, deux jeunes gamins de la banlieue parisienne, aujourd'hui joueur des catégories de jeunes chez les Blues, un club de Chelsea condamné récemment pour enfreindre la réglementation justement sur le recrutement des mineurs. Et pour évoquer ces sujets, eh bien Bruno Constant est là dans ce studio. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bruno, notre grand spécialiste du foot anglais, hein, pour y avoir passé si longtemps à Londres. Il y a aussi Gilles Verdez. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et puis Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Bonjour Annie, très constant d'être là.
Oh Nabil, on n'attendait pas moins de vous. C'est parce que vous êtes assis à côté de Bruno.
Je crois.
Ah, c'est pour être gentil. Radio Foot, c'est parti.
Bonjour à toutes et à tous. Donc la liste des 23 joueurs pour les deux matchs qui nous attendent, Moldavie-France et France-Islande. Gardien de but, Alphonse Areola. Hugo Lloris, Steve Mandanda, défenseur Lucas Digne,
résiste,
Une deuxième étoile sur le maillot, les champions du monde sont à nouveau réunis au centre d'entraînement de Clairefontaine. Deux matchs en préparation, deux rencontres comptant donc pour les éliminatoires du prochain Euro. Premier match en Moldavie vendredi soir, puis lundi au Stade de France face à l'Islande. La liste des 23 de Didier Deschamps où l'essentiel des champions de Russie est présente, eh bien quelques présences, voire quelques absences ont été remarquées et ont donné matière à discussion ces derniers jours. La question a évidemment été posée au sélectionneur des Bleus sur le manque de renouvellement de son groupe. Écoutons Didier Deschamps.
On ne peut pas enlever à ces joueurs ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas pour ça que je leur octroie des passe-droits par rapport à ce qu'on a vécu, l'expérience. Eux, c'est quelque chose qui est toujours en plus pour eux. Après, quand j'ai à choisir, c'est comparer, analyser ce qui est la force de l'un par rapport à ce qui pourrait être la force de l'autre, en n'ayant pas toutes les réponses forcément. Mais au-delà de ce qu'ils peuvent faire sur le terrain, ce qui est le plus important, évidemment, l'aspect humain dans un groupe, c'est pas des critères décisifs, mais ça fait partie des critères lorsqu'on est en sélection. Je suis reconnaissant de ce qu'ils ont fait, je suis fier pour eux, ils le méritent, c'est surtout du mérite. Mais c'est pas pour ça... Je ne suis pas une assurance vie. Si je les prends, c'est parce que j'estime qu'encore, ça penche plus de leur côté plus que de notre.
Vraiment, peut-on le croire, Gilles, ou est-il un peu prisonnier, finalement, en tant que papa des champions du monde?
Je trouve que c'est un langage diplomatique, là. Il en fait parfois. Ils sont intouchables, sauf quand ils sont retraités. Ou blessé, donc hors du coup de l'équipe de France, comme Rami par exemple, qui a pris globalement sa retraite internationale et qui ne sera plus le sauveur du vestiaire.
L'ambianceur.
Il faut savoir que j'ai regardé, il y a 6 champions du monde absents dans les listes là et un seul des 11 titulaires de la finale de la Coupe du Monde France-Croatie, Lucas Hernandez. Donc c'est quand même une liste qui est largement dans la continuité plutôt que dans le changement.
Bruno.
Ouais, il y avait des débats ou des choix qui étaient attendus avec les formes d'Éric Laporte à Manchester City, qui est un des meilleurs défenseurs de Premier League et pour Guardiola le meilleur défenseur de City, c'est pas rien. Clément Lenglet à Barcelone qui brille, qui pousse Umtiti sur le banc, qui le repousse en tout cas.
Alors que Umtiti est sur la liste
et qui fait ses matchs. Et quand on voit les explications de Didier Deschamps sur par exemple Lenglet, quand il explique que la raison c'est parce qu'il a pas l'expérience internationale, même lui on voit qu'il patauge un peu pour ses explications et ses justifications. Bah oui, parce que on peut pas reprocher à Lenglet de pas avoir l'expérience internationale.
Nabil, est-ce qu'il a tort finalement Didier Deschamps de se contraindre, je dirais, et de continuer à inviter les champions du monde sur sa liste?
Bah nous, globalement, les observateurs, on a plus envie de miser quelque part sur la forme du moment, parfois peut-être la culture de l'instant. On a peut-être moins en moins envie d'une sélection de célébration entre guillemets. Alors celui qui l'a représenté le plus, bah il est plus là. C'est Adil Rami, mais très sincèrement Annie, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est un minimum un renouvellement, parce que dans les matchs qui se présentent on a la possibilité quand même d'essayer de nouvelles choses. Bruno parlait à juste titre de la défense, mais aussi en attaque également.
Mais malgré tout, Didier Deschamps, on avait lu avant la Coupe du Monde, il n'y avait que 13 des 23 joueurs qui avaient participé à la campagne de l'Euro. Oui. Donc, il le fait peut-être d'une façon plus.
Mais il a crédit illimité quelque part. De toute façon, là, on discute, mais il a crédit illimité. Je veux dire, il est champion du monde. Il pourrait faire venir Gilles, Bruno et Nabil. Qu'est-ce qu'il gars, il a tué le game, quoi. C'est comme Zidane avec 3 Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il a touché le Graal. Après, bon, lui, il a sa réflexion, il a sa logique. Franchement, l'anglais, c'est incompréhensible, très sincèrement. Et puis moi, quand même, je pose la question, je sais pas, mais j'ai absolument rien contre Olivier Giroud, mais c'est un joueur qui ne joue que le jeudi. C'est-à-dire qu'en Europa League, on sait qu'il a plus de 30 ans ou 33 ans, si je dis pas de bêtises. Je dis pas qu'il ne doit pas rester dans le groupe, mais très sincèrement, à ce poste-là, même si on sait qu'Mbappé peut prendre la pointe, eh ben, on a envie de voir la casette, on a envie de voir Ben Yedder qui est absolument sous-coté.
Mais Giroud a un profil atypique et qu'on n'a pas en France qui lui permet aussi d'exister, quoi, d'être encore là.
Tu peux le prendre, mais tu as aussi le droit de prendre, par exemple, Moussa Dembélé, l'attaquant de l'équipe de France Espoir. Mais en plus, tu peux d'autant plus les prendre facilement que très sincèrement, tu joues la Moldavie, quoi. Je veux dire, il y a un moment, je ne veux pas manquer de respect à la Moldavie.
Oui, c'est pas France-Allemagne ou France-Espagne, voilà, effectivement. Gilles.
Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pour la continuité et l'aspect inamovible des champions du monde. Tant qu'ils n'ont pas pris leur retraite, il faut les sélectionner. Je sais très bien que parfois, dans 10 ans, on me dira, mais on n'a jamais rien changé, on a fait finalement comme l'Allemagne et l'Espagne. Ouais. Mais vous voyez bien que les nations qui triomphent, vous ne pouvez pas changer les champions du monde, parce qu'ils sont champions du monde. Donc, sans blessure,
on peut changer, Gilles.
Gilles, en même temps, le contre-exemple, c'est quand même la campagne des Allemands en Russie.
Oui, mais je vous dis, et l'Espagne qui n'a pas changé, et l'Allemagne. Vous pouvez me sortir, Annie, tous les contre-exemples. Ce n'est pas pour rien si ces sélectionneurs sont morts avec leurs champions du monde. Ils sont intouchables. Ce sont des héros. Donc vous ne pouvez pas les écarter. Vous imaginez le scandale.
Donc c'est pas une convocation sportive.
Ça dépend qui tu écartes, Gilles.
Vous avez dit, Didier Deschamps, vous avez pris l'extrait idoine, l'aspect humain. L'aspect humain. On a été champion du monde grâce au profil du groupe. Parce qu'il y avait une bonne entente, donc gardons-les éternellement.
Mais c'est ça qui fait gagner, alors.
Ah, bien entendu,
non, mais
c'est ça qui fait gagner.
Je suis pas d'accord avec Gilles, Annie. Je veux dire, on peut conserver 80-85% de l'ossature. Mais ton travail aussi, c'est de penser à demain. En plus, Didier Deschamps se projette en partie. Il s'en cache pas. On en parlera peut-être.
Il a dit qu'il
ne déplairait pas d'aller en 2022. Donc, quand tu vois Clément Lenglet, très sincèrement, aujourd'hui, c'est pas loin d'être le meilleur défenseur français. J'enlève la porte parce que pour moi, c'est pipé pour lui. C'est pas que du football.
Oui, il y a un problème
d'incompatibilité d'humeur. Enfin, bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Je crois que Didier Deschamps n'estime pas qu'il soit capable de se fondre dans ce collectif-là au niveau de l'état d'esprit. C'est ce que j'ai entendu. Maintenant, je sais pas si c'est la vérité suprême, mais en tout cas, c'est le retour que j'ai eu. Quand tu vois Umtiti, son genou, il est en vrac. Kimpembe et sa suffisance. Je vous rappelle quand même qu'il a expliqué qu'il s'était pas mis au niveau pour un match de niveau international. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi ouvrir la porte. Et Bruno a raison quand il dit que t'as pas d'expérience internationale, donc tu peux pas venir. Ah ben c'est comme quand j'étais jeune et que j'allais en boîte de nuit, c'est-à-dire que si tu rentres pas une première fois, tu rentreras jamais. C'est exactement la même chose. Non mais je suis désolé, quoi.
Mais vous raisonnez, le problème c'est que vous raisonnez à courte vue. L'anglais, très bon joueur, d'accord. Mais si vous le prenez,
oui.
Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez me dire, il est très bon, donc,
non,
c'est votre logique, on va l'aligner titulaire.
Non, pas forcément.
Tu peux le tester.
Tu peux le voir titulaire.
Non.
Titulaire. Ah bon, tu le fais en 10 minutes.
Gilles,
tu sais très bien que tu changes pas les défenseurs centraux pour 10
minutes. Tu prends d'abord des gars pour voir si déjà, tu les regardes, tu les observes. Est-ce qu'ils peuvent se fondre?
Dans le groupe?
Voilà, tu prends la température, tu sens la personnalité.
Faut-il savoir s'il accepterait d'être remplaçant, sans intérêt la sérénité des autres en bleu? Je pense que Deschamps est mieux à même que vous d'en juger.
Le problème en faisant ça, c'est que tu vas jusqu'à l'Euro 2020, jusqu'à la veille de l'Euro.
Oui, qu'on va gagner.
Imagine Umtiti est blessé. Imagine Kimpembe est blessé. Comment tu fais? Tu vas appeler un joueur qui n'a jamais joué en équipe de France.
Ah bah oui, mais alors là, comment vous tu prenez fais une liste où tous nos défenseurs centraux sont blessés. Non,
c'est ça le travail.
Comment tu expliques que Kurzawa... Bah,
Zouma, il est rappelé. Zouma, ouais. il joue à Everton.
Il est pied droit. C'est pour ça qu'il est rappelé.
Il peut jouer des deux côtés.
Il
peut jouer des deux côtés aussi.
Non, mais si vous contestez les choix techniques de Didier Deschamps...
Mais
il ne mérite pas plus que l'anglais ou la porte.
Toi qui défends Didier Deschamps, qu'est-ce que tu réponds au fait que Kurzawa soit là alors qu'il a insulté son sélectionneur il y a quelques mois?
Kurzawa me pose problème, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il me pose problème. J'ai toujours eu un problème avec ce joueur. Un problème comportemental, je n'excuse pas ses errements. Voilà, je vous réponds franchement.
Bah c'est bien, au moins Gilles est honnête.
Et Coman, sur cette liste, ça vous surprend ou pas?
Non, pour moi, un joueur qui joue au Bayern de Munich, c'est toujours plus impressionnant.
Mais enfin, il joue aussi alternativement, pratiquement comme Titi.
Oui, c'est vrai, mais après, c'est quelqu'un qui...
Bien sûr,
Mais Coman, c'est un dynamiteur, il peut rentrer en cours de match.
Et puis, il était dans le groupe de 2016.
Il a contribué au regain de forme du Bayern depuis le début de l'année, quand même. Et c'est pas rien. C'est à chaque fois qu'il rentrait, à chaque fois qu'il jouait, le Bayern avait davantage d'étincelles. C'est un joueur d'avenir qui a eu des petits soucis par le passé. Je pense que c'est pareil. Il faut le relancer. C'est quand même sur les côtés où il y a beaucoup de choix et on peut au moins les tester, au moins leur donner ça.
Ouais. Bon,
après, il fait plaisir quand même à Gilles puisqu'il prend par exemple Thauvin qui traverse pas non plus une séquence exceptionnelle. Donc quelque part, il y a cette dimension humaine. Elle est là. La logique de groupe.
Stéphane Mandanda, dont on parlait hier dans Radio Foot, c'est pareil.
Exactement.
Mais il faut pallier les blessures aussi. Il y a des gens qui sont blessés. Notre principal problème pour moi, c'est sur les postes de latéraux. C'est vrai. On parlait de Kurzawa. C'est là où pour moi, on est le moins bien outillé.
Pavard à droite, il est quand même pas indiscutable.
Il y a Sidibé qui revient quand même.
Il est pas indiscutable. Au moins tester d'autres solutions et pas rappeler Sidibé. Qui franchement, oui, qui revient un peu
comme ça. Si, revient,
ouais, mais enfin, il y a d'autres joueurs à appeler, à tester, au moins. Il faut se parer, à un moment donné.
Le problème, c'est que vous voulez tester qui? Dubois, il a pris la marée face au Barça.
Sidibé, il a pas pris la marée pendant un an?
Kenny Lala, je suis d'accord avec vous. Kenny Lala, il joue à Strasbourg. On sait que Didier Deschamps aime les joueurs qui jouent dans des gros clubs et qui jouent en compétition continentale. Ensuite, il y en a un autre qui était possible. Je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Moi, j'aurais testé celui-là. C'est Kevin Malcuit à Naples, qui joue régulièrement, qui est en train de se faire un nom du côté de l'Italie. Mais peut-être que lui, il estime que ces garçons-là ne sont pas au niveau que lui espère. C'est tout.
On y reviendra sur ces bleus puisqu'ils joueront vendredi soir, en Moldavie et Antoine Grenier en Moldavie, ça sera
lundi
au Stade de France.
On n'aura pas Clément Grenier, mais on aura Antoine Grenier.
Exactement. C'est pas mal quand même, hein.
Ah bah ouais.
Il les a portés jusqu'au stade Loujniki un certain dimanche 15 juillet 2018. Donc on lui fait confiance à Antoine. Antoine, eh bien on passe d'un Antoine à l'autre. Antoine Griezmann, l'homme important du 11 de cette équipe de France, est au milieu, on va dire, de nouvelles rumeurs de transfert. Grisou qui avait décidé de rester à l'Atlético Madrid, on se souvient du feuilleton juste avant la Coupe du Monde, penserait pourtant à nouveau partir ailleurs. Cela peut-il gêner son travail avec les Bleus? Réponse de Didier Deschamps.
C'est le jeu des médias, ça se fait pas. Non, il n'y a aucun souci là-dessus par rapport à Antoine. Il a reprolongé son contrat, il peut être amené, s'il est sollicité, à réfléchir. Mais je ne vois pas pourquoi, comme ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde ne l'a pas perturbé non plus. Ça ne l'a pas empêché d'être... très concentré sur ce qu'il avait à faire et permettre à l'équipe d'atteindre ce titre mondial. Il a suffisamment de maturité, mais c'est des choix de carrière en moment. Comme tout joueur, c'est pas facile, donc ça demande une longue réflexion, mais c'est leur lot au quotidien.
Antoine Griezmann est-il déçu de sa saison avec l'Atlético au point de vouloir partir, lui qui disait maintenant je veux gagner des titres? Alors il a gagné la Coupe du Monde.
On connaît que sa communication hasardeuse, bon à la limite là sur le coup il n'a pas parlé, on parle pour lui, mais j'imagine qu'il y a des informations qui ont fuité. Moi mon sentiment, après je me trompe peut-être, il vient de prolonger à l'Atlético Madrid en nous expliquant que c'était la décision. Je rappelle qu'il a prolongé avec un salaire qui est absolument stratosphérique et qu'il ne peut pas espérer à ce niveau-là ailleurs, à moins qu'il concède de faire des efforts. Pour moi, le FC Barcelone ne s'alignera pas en termes financiers sur le salaire qui lui a été offert à l'Atlético Madrid. Moi, à mon sens, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a trois semaines, Antoine Griezmann était potentiellement Ballon d'Or. Aujourd'hui, c'est numéro 28 mondial puisqu'il s'est fait sortir avec l'Atlético.
L'Atlético éliminé, sens, ça peut changer des choses en Ligue des Champions.
À mon sens, hein, son destin est lié à celui de Diego Simeone qui pourrait se poser exactement les mêmes questions. À mon sens, c'est un coup de pression déguisé pour que l'Atlético Madrid, cet été, sur le marché des transferts, se débrouille pour monter une équipe un peu plus séduisante dans laquelle il ne passe pas son temps à défendre 90% du temps comme il l'a fait au Juventus Stadium.
Gilles. Alors déjà sur l'argument du salaire, il gagnerait moins à Barcelone, puisque de toute façon vous devez gagner moins que Messi, c'est la règle d'or, mais il serait deuxième salaire. Et comme sa clause libératoire, étant donné que l'Atlético a été éliminé très rapidement, peut diminuer, et Barcelone aurait quand même de l'argent en payant le transfert pour lui verser une prime à la signature. Donc il s'y retrouverait.
Il faut vendre Coutinho ou Dembélé, oui, condition sine qua non.
D'accord, bah c'est pas un problème vendre Coutinho pour ce qu'il apporte.
Mais c'est pas fait. Hein.
Mais je pense que moi je suis pas totalement d'accord. Je pense que Griezmann se pose vraiment la question parce qu'il se rend compte.
Il a raté le coche l'été dernier. Voilà, moi je vous réponds.
Il se rend compte. Oui, mais là on n'est plus l'été dernier, ouais, on est le printemps présent qui arrive. Et donc à ce printemps-là, il se rend compte qu'avec l'Atlético, il ne gagnera pas la Ligue des Champions. Franchement, c'était l'année où jamais. D'autres vont partir. C'est une fin de cycle.
Surtout si le Barça va beaucoup plus loin, il aura encore plus de regrets.
Pour gagner la Ligue des Champions,
bon, on attend
il faut,
sa vidéo,
comme l'a alors. Fait Thierry Henry à un moment quand il a quitté Arsenal, il faut aller à Barcelone.
Mais Bruno, est-ce que le Barça a encore des envies de Griezmann, selon vous?
Ça, c'est une bonne question. C'est une première chose. Je pense qu'ils sont mécontents de Coutinho, et Coutinho, ça se passe très mal. On en parle du côté de l'Angleterre, donc s'ils peuvent le vendre, je pense qu'ils le vendront. Après, c'est pas tout à fait le même poste. Griezmann, c'est un attaquant, on va dire presque pur, au moins un des trois de devant, et il y a du monde devant. Après, moi, j'admire le fait qu'on puisse.
Suarez, il faut peut-être penser un jour.
Ils sont sur d'autres joueurs. Pour l'instant, il est performant, et à l'âge où il a, c'est compliqué de le vendre à un bon prix. Après, moi, j'admire les gens qui arrivent à deviner ce que veut Griezmann. Je pense que Griezmann ne sait même pas ce qu'il veut lui-même. Il change sans arrêt d'avis. Un jour, son rêve, c'est d'aller à Manchester United. L'autre, c'est aller au Barcelone. Après, c'est de rester à l'Atlético parce que c'est son club. Et qui rêve d'être plus ou moins l'homme d'un seul club. À United, en tout cas, ils regardent tout ça avec intérêt. Ils veulent se renforcer devant. Ils savent que Griezmann aime bien l'Angleterre, même si son club préféré était Arsenal. Il serait pas contre aller à Manchester United. C'est un flou énorme sur Griezmann. Et je pense aussi qu'il y a peut-être une manière de mettre la pression sur l'Atlético. Pour se renforcer, il voit bien qu'il y a un écart, de toute façon, entre les monstres européens et l'Atlético, et que s'il n'y a pas de progrès Atlético, il ne pourra pas gagner de titre majeur.
On est dans le monde des médias. Franchement, on décrypte souvent les timings des sorties des informations. Il vient de se faire éliminer. Comme par hasard, on nous annonce que maintenant il va aller à Barcelone. Franchement, il faut se poser les bonnes questions. Je veux dire, cette information, si elle sort à ce moment-là, elle est orientée, je veux dire.
Bien sûr.
Il faut se poser la question, pourquoi on vous a donné l'information à ce moment-là? Donc, c'est soit il fait un appel du pied à Barcelone, on verra si Barcelone est intéressé par lui. Mmh. Et vous avez raison, Annie, parce que moi, je veux bien qu'il aille à Barcelone, mais il va jouer où?
À la
place de Messi.
Oui, puis Dembélé qui l'année d'avant n'avait rien montré, Valverde l'aime plutôt bien.
Moi, je pense que sa seule issue, c'est que Diego Simeone change légèrement de logiciel de jeu et qu'ils aient des profils de joueurs qui lui permettent également d'être moins à passer son temps à faire des efforts et des contre-efforts.
Mais regardez, Nabil parle de communication, mais la communication à ces instants-là de la saison, c'est essentiel. Regardez la communication de Mbappé au lendemain de l'élimination du PSG. Je reste, je crois, en ce projet. La communication de Griezmann, globalement, ce qui filtre, c'est je ne reste peut-être pas parce que je ne crois peut-être pas en ce projet. Ça veut dire, en filigrane, je veux partir.
Mais
je
cherche à partir. Il se fout de la gueule du monde.
J'en sais rien, mais
l'été dernier, il y a tout un cirque. Non, mais c'est important. Sa communication, elle est désastreuse dans ce cas-là. L'été dernier, il nous fait tout un cirque en faisant monter la sauce.
La vidéo.
Je suis LeBron James. Je vais vous dire si je vais jouer aux Lakers ou aux Boston Celtics pour nous dire la décision. Enfin, c'est-à-dire tout un cirque. D'ailleurs, Didier Deschamps, au début de la compétition, n'avait pas apprécié cette manière de faire. Et si ça avait été d'autres, je peux vous dire qu'ils ont ramasser davantage. Et là, un an plus tard, le gars, il t'explique.
Même pas.
Mon cœur est coach Nero, vive l'Uruguay, vive Diego Simeone. Ah bah non, je vais aller jouer avec Messi.
Enfin, Diego Simeone. Mais oui, il est pas uruguayen.
Non, mais je veux dire, voilà, dans l'état d'esprit, quoi.
Mais est-ce que le PSG pourrait être intéressé par Griezmann?
Oui.
Si, il va falloir qu'ils vendent, hein, parce que c'est bien beau d'être intéressé.
Non, mais ça veut dire qu'il y en a qui partiraient, par exemple, Neymar au Real.
Est-ce que Griezmann a envie de revenir jouer en France? Moi, j'ai pas l'impression. Il est bien en Espagne.
Non, mais
le seul championnat qui peut l'intéresser en dehors de l'Espagne, je pense que c'est l'Angleterre, parce qu'il a toujours eu ce rêve de jouer au moins une fois dans sa vie en Angleterre.
Mais c'est absolument pas dénué de sens, parce qu'il peut y avoir un jeu de chaise musicale. Et si le Paris Saint-Germain voit Neymar partir,
il aura pas plus de garantie de remporter des titres majeurs au PSG qu'à l'Atlético.
Oui, mais après, il est français. Il revient chez lui, au PSG c'est prestigieux, tu vis à Paris, ça a l'air plus que confortable.
Je suis pas sûr qu'il se sente chez lui à Paris et même en France.
Je crois que c'est la tentation de Barcelone, moi. Vraiment.
Ou United, et c'est Bruno a raison là-dessus, parce que je crois qu'ils avaient déjà sondé sérieusement. Quoi.
Justement, restons sur l'Atlético, parce que l'Atlético, on a l'impression qu'ils sont dans une mauvaise passe, c'est Colchoneros donc qui ont perdu au cours du week-end en championnat, en Liga, c'était face à un autre Atlético. Alors, c'était pas l'Atlético, évidemment, c'est l'Athletic Bilbao, qui n'est que 9e au classement. Une défaite 2-0, un peu sévère. L'Atlético, en plus, recule au classement. Ils sont 2e, mais maintenant, ils sont talonnés par le Real Madrid, qui s'est rapproché à 2 points. On a l'impression que cette équipe, quand même, Gilles, alors, on se souvient des propos de... notamment les vôtres, d'ailleurs. Je crois que vous devez vous transformer en vendeur de melons, vous, hein, n'est-ce pas? Vous aviez dit que vous feriez comme Simeone s'il ne se qualifiait pas du côté...
Non, j'avais dit que je me transférais en Simeone si Manchester City était éliminé à Nice. Sinon, je me serais transformé en vendeur de melons, je vous promets. Si, j'en suis certain. Lui doit se transformer en vendeur de melons.
Oui, il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, cette élimination à Turin, alors qu'ils avaient 2 buts d'avance, bon, certes, ils avaient Cristiano en face, est-ce que ça leur a donné un coup d'arrêt,
bien sûr,
finalement?
Bien sûr, mais
parce
bien
qu'ils
sûr.
Vont être obligés d'assister à une finale qui va se passer dans leur stade du Metropolitano.
C'est terrible. La saison s'est terminée brutalement. Et la manière.
C'est pas les seuls, mais bon.
Oui, mais la manière là, pour eux, 2-0 à l'aller, c'est un score que l'Atlético ne peut pas envisager perdre 0-3.
Oui, ils avaient plus de 60% de chances de passer.
Cette défense de fer, ce mental absolu. Non, très franchement, Simeone, avec ses 20 millions, 21 millions d'euros par saison, il est fragilisé. Et je pense que le projet de l'Atlético doit se renouveler. Et c'est justement là tout le problème. Des joueurs maintenant rêvent de partir. Simeone a un management qui est éreintant, usant pour les joueurs. Donc les joueurs sont fatigués. Franchement, pour moi, c'est une rupture brutale. Le Real a déjà amorcé la reconstruction. L'Atlético, là, est encore dans la faillite.
Non, mais c'est...
reconstruction.
C'est vrai que c'est difficile à dire, mais je suis d'accord avec Gilles.
Il
faut pas tout jeter, évidemment. Après, c'est vrai que c'est une équipe qui est née pour défendre. Alors, se voir faire remonter comme elle s'est fait remonter, c'est un peu surprenant. En même temps, quand il y a Cristiano Ronaldo d'un côté.
Un peu vieillissant aussi, ces défenseurs.
Il y a Diego Godin qui est une vraie question, qui va être libre, qui devrait normalement partir du côté de l'Inter de Milan. Des recrues, ils ont fait des recrues l'été dernier, on oublie d'en parler. Lemar, 72 millions d'euros, 2 années de contrat pour l'instant. C'est plus un joueur de possession, il ne rentre pas forcément dans le moule. Alors, il va peut-être la saison prochaine, ça va peut-être être sa saison, comme Bernardo Silva l'avait fait du côté de Manchester City. C'est un échec. Après, il leur a manqué un garçon qui était, à mon sens, important et qui est devenu important dans le système de jeu de Simeone, c'est Thomas Partey.
Au match retour,
il apporte un impact au milieu. Mais je suis assez d'accord avec Gilles, il va falloir qu'ils réfléchissent sérieusement à leur projet de jeu, à leur logiciel de jeu, et à savoir si comment mettre dans les meilleures conditions possibles Antoine Griezmann, puisque c'est lui leur leader.
Théoriquement.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve qu'on les raye un peu trop vite en quelques semaines, même si c'est des matchs importants et qu'effectivement, ils sont éliminés. On oublie qu'au match aller, ils remportent le match 2-0, ils font un super match, et leur approche du match est la bonne.
La Juve avait fait, par contre, un très mauvais match.
Et je pense que très peu de gens, voire pas du tout, voyez l'Atlético quand c'est les 3 buts à Turin. Ils sont tombés pas uniquement sur l'équipe de la Juve, mais sur un mec qui est juste un extraterrestre. Et à un moment donné, il faut s'incliner.
Mais au match aller, il l'avait bien muselé.
Oui,
il l'avait
muselé. C'est comme ce qu'on dit souvent au PSG. Les Ligue des Champions, c'est sur 2 matchs et il faut être bon sur les 2 matchs.
Mais c'est un échec.
Ils sont un échec. Ils ont quand même moins de moyens, un peu moins de moyens que les autres. En tout cas, en Espagne, en Liga, il y a un moment, ils étaient à 5 points du Barça. Et ils sont quand même
moins de moyens que le Barça. C'est l'entraîneur le mieux payé au monde, c'est merveilleux.
C'est pas ça qui fait une équipe.
Ah, bah, ça compte quand même.
Mais non, mais c'est pas ça qui met en joueur sur le terrain.
Mais 72 millions d'euros brûlés sur les marques.
Ils ont moins de moyens que le Barça et le Real depuis des années. Ils sont quand même un cran en dessous.
Ouais.
Ils reviennent de loin, mais ils ont quand même le curseur. Ils se rapprochent clairement de ces équipes-là.
Ils sont pas dans le top 10 des 10 clubs les plus riches du monde.
Je suis pas sûr. Et pour ce qui est des performances, ils risquent de perdre la deuxième place. Alors bon, en Espagne, c'est comme en Angleterre ou en Allemagne ou en Italie, c'est les 4 premiers qui ont la chance de disputer la Ligue des Champions, mais quand même. Évoquons maintenant l'autre équipe, donc le Barça. Le Barça Barça de en Liga, eh bien toujours en forme le Barça, toujours en tête d'ailleurs, et toujours vainqueur, et toujours grâce à Messi.
Tira Leo Messi. Madre mía de mi vida, gol, 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 gol. De Leo Messi. Suárez buscando a Messi, vaya pase, golazo, 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 golazo. Luis Suárez la da casi sin mirar para Messi. Rakitic otra vez para Messi, va a tirar Messi, 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 madre mía. Pero pónganse de pie, qué golazo. ¡Qué golazo de Leo Messi!
Nos confrères espagnols qui se délectent de voir Messi, 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 et même les supporters adverses, parce que ce qui a marqué Messi, et Messi dit c'est la première fois que ça m'arrive, alors ça nous paraît un peu incroyable, mais en tout cas la Pulga de Barcelone, quand elle a mis le troisième but, son troisième but, et le quatrième, il a d'ailleurs failli mettre un quadruplé, hein, le ballon est passé au ras des poteaux, et en tout cas bah, les supporters, ceux du Betis Séville, se sont levés, standing ovation pour Lionel Messi, et il chantait aussi le nom du buteur argentin. Alors les statistiques, elles sont toujours aussi affolantes. Notre stagiaire Yann Lomen, on a cherché un petit nombre. C'était le 51e triplé de sa carrière, le 4e de la saison, hein, parce qu'on a l'impression de se répéter avec Messi dans l'excellence, bien sûr. Et il devance Ronaldo. Il est juste devancé par Ronaldo, qui en a marqué 52. Donc.
Mais les fans de Ronaldo en Afrique lui diraient, Annie, Ronaldo est plus vieux que Messi.
Ouais.
Faut pas oublier également qu'il a 2 ou 3 ans de plus.
Oui, mais
que
il a joué. Ils ont joué à peu près au même moment en changeant de club.
Oui, tout à fait. Après, c'est évidemment des chiffres qui sont comparables.
Ça vous épate triplé.
Je suis inquiet pour les fans du FC Barcelone. Je vais vous dire pourquoi, Annie, parce que Cristiano Ronaldo avait été ovationné du côté de la Juventus.
Exactement.
De la même manière, il avait signé à la Juve. Donc là, vous me dites que les fans du Betis ovationnent Messi. Attention, hein, attention, les rumeurs. Messi en Andalousie.
Messi bon, du côté du
Betis. Il
n'y
a plus de mots, il n'y a rien à dire. Je veux dire, son but là, en rupture, lobé en première intention, c'est comme la Joconde, il n'y a qu'à regarder, il n'y a rien à dire.
Il y a il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, c'est Bruno Constant.
Pourquoi?
Parce que Bruno, vous êtes épaté, mais vous vous dites c'est pas le seul.
Le but
magnifiques.
Bah oui, non mais c'est vrai en plus. Mais c'est le but est magnifique, il y a rien à dire. Enfin, on contemple tous ce genre de but, mais je trouve qu'on en a fait énormément sur ce but alors que d'autres joueurs l'ont fait. En Angleterre, un certain Frank Lampard, et c'est ce que j'avais tweeté, j'avais mis la vidéo de Lampard, un vieux match contre Hull City, mais d'autres le font tous les dimanches dans leur championnat.
Il l'a fait est-ce que c'est un hat-trick quand il le fait?
Qu'est-ce que ça change au
geste? Non, parce qu'il y a, en fait, ça sublime, en fait, sa performance.
Mais c'est non.
Dans un stade hyper chaud, en plus. Non, mais
oui,
je remets pas en cause.
Alors, si on met maintenant, faut regarder le match.
Non, mais c'est la cerise sur le gâteau, à ce moment-là.
Mais je suis d'accord. Alors après, c'est comme les Panenka. Les Panenka, c'est magnifique, mais il y en a quelques-uns, très peu, qui l'attendent en finale de la Coupe du Monde. Zidane l'a fait. Là, je suis d'accord, ça rend le geste encore plus beau. Mais là, faut arrêter. Je suis d'accord, c'est un geste magnifique, mais il faut pas en faire des tonnes à chaque fois parce que c'est Messi.
Gilles.
Si, moi, je trouve qu'il faut en faire des tonnes.
Ah, bah oui, mais parce qu'il s'appelle Lionel Messi.
Parce qu'un jour, on pourra plus louer les prodiges de Messi, hélas. Donc, faut les célébrer pendant qu'ils sont là. Et puis, c'est vrai qu'il y a la permanence au plus haut niveau. Vous rappeliez ses stats. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque semaine, maintenant, c'est un triplé. Ouais. Donc, l'extraordinaire nous paraît ordinaire, mais on s'en souviendra comme de Pelé. Comme de Cruyff, comme de Zidane, on se souviendra qu'il y a Maradona qui a eu Messi et Ronaldo, qui là sont en course pour le Ballon d'Or, les deux clairement. À mon avis, voilà, cette année.
Attention à Mané, Sadio Mané
aussi.
Mais ce sont les compétitions de clubs qui vont primer, et le duel est déjà lancé entre les deux. C'est des stats affolantes. Messi, il va terminer meilleur buteur sur la saison. C'est hallucinant.
Il a déjà inscrit 29 buts en 26 matchs en Liga. Alors, c'est 5 de moins que l'année dernière.
Mais
hein,
un mois d'absence également, Annie. un mois d'absence également pour Messi, il ne faut pas oublier également.
Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a que 26 matchs.
Ouais, donc ça rentre en ligne de compte.
C'est des stats de Pelé hein, au niveau. C'est-à-dire que c'est au jour d'aujourd'hui, avec les qualités athlétiques nécessaires. Voilà.
Exactement.
La rugosité des défenses, c'est des stats d'il y a 40 ans.
Surtout lui, on a toujours l'impression qu'il sait se faufiler et qu'il est rarement séché par les défenseurs. Et il a marqué, autre statistique intéressante, il a marqué plus que ses 109 coéquipiers qu'il a vu défiler. Il est autour de lui depuis 2004.
Et
il a marqué 109 buts.
Non, mais ce que vous dites, c'est incroyable parce qu'il y a quand même, si on faisait le listing ou la nomenclature de ses noms, je pense qu'on serait quand même, impressionné. D'après ce que je sais, il a envoyé 2 défenseurs du Betis à l'ostéopathe.
Ah.
Marc Bartra. sur un retour et l'international algérien Issa Mandi. En plus, il envoie des joueurs à l'ostéopathe.
585 buts pour dans l'ensemble de sa carrière, évidemment toutes compétitions confondues. Pour l'instant, puisque Messi marque toujours. Et pour le plaisir, écoutons quelqu'un qui avait été estomaqué, stupéfait, fasciné par Messi. Il commentait le match Barça-Lyon la semaine dernière. C'est Eric Mamrut.
Goal de Messi ! Le public catalan en liesse ! 3 buts à 1 pour le Barça. Ça, grâce à Léo Messi, si, señor, 3-1, Lionel Messi est énorme ce soir, et oui, la réponse de l'Argentin, 3-1, goal, la qualif est à nouveau, est encore plus dans la poche du Barça.
Et bon, hein.
Ah, pas mal,
on s'y croirait,
quand on est,
on a des frissons.
Quand on est épaté par Messi, évidemment, c'est compliqué de se retenir. Merci Eric. Alors à noter aussi, toujours en Espagne, pour terminer avec la Liga, eh bien le retour gagnant de Zizou. Le Real Madrid a gagné son premier match sous la direction donc de Zinedine Zidane. Victoire 2-0 à Bernabeu contre le Celta Vigo. Des buts signés Isco et Bale. Est-ce qu'on sent déjà la patte Zizou selon vous, Bruno Constant?
Ah ben là,
ou est-ce qu'elle est, elle est évanescente et charismatique dans le vestiaire?
Non mais déjà on la sent sur la composition qu'il a faite, parce qu'il y a eu 5 changements sur le 11. Le plus frappant évidemment c'est le Keylor Navas dans le but à la place de Courtois, et c'était un grand succès. Donc je pense que Courtois a des raisons de s'inquiéter, et puis les retours d'Asensio, et j'ai oublié qui fait relance aussi,
Isco,
qui était deux joueurs presque bannis du groupe, et il les relance et les deux sont décisifs. Donc c'est là la force de Zidane, psychologique, et redonner confiance à des joueurs. C'est un peu ce qu'on a vu à Manchester United avec Ole Gunnar Solskjaer. Ouais. C'est que ça marche un temps, la confiance, et qu'après il va falloir réinstaller, reconstruire une équipe.
Non,
et
là,
c'est
la
surtout
à
la saison qu'on attend en fait.
Ouais.
Parfois on relativise l'importance du mental dans le foot. Mmh. Vous voyez des joueurs qui en 3 jours passent de abattus dans les vestiaires, faisant du mauvais esprit. Parce que certains des joueurs qui jouaient plus à Madrid, quand même, Madrid qui a parfois des structures claniques dans le vestiaire, certains faisaient du mauvais esprit, dénigraient l'entraîneur, leurs coéquipiers, ils sont sur le terrain, ils marquent. Donc Zidane, aujourd'hui les managers modernes comme Zidane, Guardiola, le but c'est de donner confiance aux joueurs. Oui, ok, ils sont assez puissants pour dire à leur président, je veux les meilleurs joueurs, d'accord. Mais une fois qu'ils sont là, il faut les câliner, dans le bon sens du terme, les mettre en confiance. Et ça, ils savent faire, quoi. Et beaucoup ne savent pas.
Mais c'est davantage un meneur d'hommes, Zidane, qu'un vrai grand tacticien.
Oui, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aux managers.
Mais
à
oui,
part
bien sûr.
Guardiola,
bien sûr, bien
et
sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Mais après, il a quand même été, il y a la kalinothérapie, je veux bien, le JO du Club Med, mais sur les trois saisons qu'il a fait, il a quand même donné des réponses tactiques, il s'est adapté.
Oui, je parlais des 3 jours.
Non, mais je parle dans l'absolu, et parfois, c'était 4-3-3.
On se souvient de certains changements,
voilà,
notamment, des 4-4-2 pendant les finales.
Avec
et tout.
Vasquez, quand ils sont venus au Paris Saint, quand ils sont venus au Parc des Princes, vous vous souvenez également, tactiquement, il a quand même une vision. Alors, effectivement, aujourd'hui, il faut la patte machin. Bon, la patte Zidane, c'est peut-être un pragmatisme opérationnel.
Gagné.
Et c'est aussi une forme de possession et de jeu, parce que de toute façon, on a pris du plaisir à regarder ce Real. Après, il a relancé des joueurs qui ne partiront pas, à mon avis, parce que vous dites 5 changements. Mais il y en a un ou deux, à mon avis, ils devaient partir, ils vont rester.
Bah, quel en Navas, on se souvient qu'il a failli partir en fin de mercato d'hiver.
Moi, c'est pas forcément sur Navas que je
voulais appuyer. Non, mais c'est un de ceux-là.
Mais surtout Marcelo, le latéral brésilien, annoncé à la Juventus de Turin, qui expliquait il y a encore 3 ou 4 semaines, depuis que Zidane est parti, je suis plus le même joueur. Zinedine Zidane revient. Vous pensez qu'il va laisser partir Marcelo? C'était une machine de guerre avec Cristiano Ronaldo sur le côté. Isco également, qui était sur le départ, qui a discuté avec Manchester City, qui a discuté avec le Paris Saint-Germain, qui, à mon sens, si Zidane lui regarde dans les yeux et lui dit tu restes là, je compte sur toi, je vous annonce qu'il prend pas du tout ses valises. La question à laquelle va falloir répondre Zidane, c'est il avait un joueur qui s'appelait Cristiano Ronaldo qui mettait 50 buts par saison.
Qu'il faut remplacer
soit par une animation différente, soit effectivement par des joueurs équivalents. Je sais pas si ça existe. Voilà. Sadio Mané peut-être, Gilles?
Peut-être, mais moi je pense que je suis pas sûr que Mané bouge, mais il va y avoir Hazard.
C'est Hazard qui va signer. Ouais.
Mais je pense que avec 500 millions, c'est Hazard plus.
Et ils vont se mettre sur Neymar. Ils vont se mettre sur Neymar.
Je suis pas sûr qu'ils aient 500 millions. Hein. On parle plus de 200 à 300, ce qui est déjà énorme.
Moi, je pense qu'ils vont se mettre sur un des deux parisiens.
Mais ils vont
essayer Neymar, c'est sûr, bien sûr.
Neymar plus simple à sortir que Mbappé, à mon sens.
Même si Zidane serait, paraît-il, pas super fan de Neymar. Peut-être pas le joueur, mais plus.
Les à côté,
le comportement.
Il y aura pas d'anniversaire, pas de carnaval, quoi.
Est-ce qu'ils vont terminer? Et pas d'anniversaire de la sœur.
Voilà.
Est-ce qu'ils vont terminer de dauphin du Barça, selon vous, Gilles?
Je pense.
Cette saison.
Je pense que là, ils
vont reprendre la deuxième place.
Oui, ils sont sur une dynamique. Ça va être très important symboliquement. pour eux. Donc, je pense que Zidane va les galvaniser pour ça. Et ils ont l'équipe pour face à l'Atlético qui peine. Derrière, il n'y a pas grand monde. Donc oui, je pense deuxième.
Allez, maintenant, on va prendre la direction de l'Angleterre. C'est le dossier de Radio Foot. Car ce fut le tour de Chelsea, et oui, comme ces dernières années pour le FC Barcelone en 2014 et l'Atlético Madrid en 2017, le club des Blues a été sanctionné par la FIFA et interdit de recrutement. Chelsea ne pourra pas acheter de joueurs lors des deux prochains mercato d'été et d'hiver. Bon, alors on le sait, hein, ils ont 43 joueurs prêtés un peu dans tous les clubs d'Europe, donc pour les Blues, ça sera pas forcément un énorme problème. Mais bon, cette sanction est tombée car l'équipe de Londres, qui appartient, vous le savez, à Roman Abramovich, a enfreint une règle de la FIFA sur le recrutement des mineurs. Et justement, un homme, un papa, a connu ce problème. Ses deux enfants, ses deux garçons ont été repérés par ce qu'on appelle les scouts de Chelsea, ceux qui repèrent les joueurs un peu partout ailleurs. Et les parents, eh bien, ils se sont laissés séduire. Ils ont emmené leur footballeur en herbe à Londres. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Le papa, Barnabé Mensah Soglo, plus connu à Boissy-Saint-Léger, où il est toujours, où il continue à enseigner le foot, on le surnomme Barnes. Eh bien, Barnes est seul, désormais, sans ses garçons, et nous a raconté sa mésaventure. Témoignage.
Tout le monde pense que j'ai formé mes enfants pour jouer au foot. En réalité, je suis parti simplement dans l'idée bête que le football était un support éducatif et que, comme moi, je maîtrisais les sciences du sport et que c'était un excellent canalisateur. Et comme je suis un grand sportif, naturellement, j'ai développé les facultés de mes enfants. Après, tout le monde voulait nos enfants, mais moi, j'avais qu'une seule priorité. Ce qui était primordial pour moi, c'était que mes deux enfants jouent ensemble. Parce qu'en fait, depuis qu'ils sont nés, on avait beau les séparer, ils étaient toujours restés dans le même berceau. Et donc, moi, en tant qu'orphelin, j'avais l'idée farouche de respecter ça. Et donc, j'assujettissais cette condition à toute forme de recrutement. Donc, on a été appelé par la Juventus de Turin, le Barça, tout ça. Et donc, à chaque fois, je disais, je ne sépare pas mes deux enfants, ils sont jeunes, c'est à eux de décider au moment où ils vont se séparer. Et en définitive, les clubs, ils étaient clairs avec moi. Par exemple, le PSG, Pierre Reynaud avait été clair, il m'a dit, non, nous, on veut que le petit, et il y avait deux clubs qui voulaient le grand, mais moi je voulais pas séparer les deux. Et donc en fait, Chelsea était le seul club qui arrivait donc au terme de propos mensongers à accepter. Ils nous ont tout proposé, c'était tout ce que je voulais, c'est que les deux enfants jouent ensemble jusqu'à l'âge de 16 ans à peu près et qu'ils puissent se séparer après. Chelsea a dit oui en France, tout ça, et puis arrivé là-bas, ça s'est passé totalement contraire. Au départ, les deux frères, ils jouaient ensemble, et donc en fait, on voyait que sur le terrain, c'est-à-dire que sur 10 buts, la majorité des buts étaient marqués par les deux frères. Mais effectivement, Emran avait beaucoup plus de facultés, et donc en fait, c'était lui qui donnait beaucoup de ballons à son frère. Et donc, parce qu'ils avaient été formés ensemble comme ça, ils connaissaient, ils avaient les mêmes repères, donc quand son frère se mettait en mouvement, il savait comment se trouver. Au terme de 12 tournois, et je tiens à préciser parce qu'il y a des vidéos, vous voyez, et donc je défie Chelsea de sortir les vidéos. Alors je précise, au terme de 12 tournois, dès qu'on est arrivé, ben, mon fils, Emran, a été 12 fois meilleur joueur. Tous les tournois qui sortaient, que ce soit dans la catégorie naturelle au-dessus ou trois catégories au-dessus, il sortait systématiquement meilleur joueur. Donc très vite, Chelsea était embarrassé parce que ça gênait le dispositif que Chelsea avait mis en place parce qu'il y avait les autres enfants, ils rentraient en dépression, étant donné qu'on voyait que mes deux enfants. Donc quand ils ont commencé à séparer mes deux enfants en définitive, j'aurais signifié que je renouvelais pas le contrat avec eux. Et là, ils m'ont menacé, ils m'ont dit, de toutes les façons, tu vas partir les quatre fers en l'air, c'est nous qui décidons de tes enfants, tout ça. Et donc là, moi, j'ai rigolé, j'aurais dit, mais il y a des lois, je suis français, je suis pas anglais. Et là, ils ont rigolé, ils ont dit, mais c'est nous la loi, on va t'expulser et tu vas perdre tes enfants. Au départ, je les croyais pas du tout, je croyais qu'ils mentaient, qu'ils se moquaient de moi. En réalité, Chelsea a tout pouvoir, Chelsea est une entité presque étatique, et donc, après, ils ont mis leur dispositif en place, ils m'ont évincé, en complicité de ma femme. Après, voilà, ils ont pris ces décisions, ils m'ont évincé. Je suis pas du tout le seul à avoir été évincé, que c'est une pratique courante au sein de Chelsea.
Quand Chelsea était venu vous courtiser pour emmener vos enfants, ils vous ont offert beaucoup d'argent?
Chelsea sont venus nous voir en France, et donc ils nous ont à peu près tout proposé, mais absolument tout. Ouais. Et donc, quand on est arrivé là-bas, l'équipe qui est venue nous voir, en fait, n'était plus la même. Ça fait que les informations et les engagements que ceux-là avaient pris, on les retrouvait pas là-bas. C'était plus les mêmes interlocuteurs, et ils étaient pas du tout au courant. Et donc, quand nous, on est arrivé là-bas, soi-disant que c'était pour nous rendre service, et que donc, en fait, ils récupéraient notre fils, ils nous donnaient une opportunité. Ils vous attirent pour l'argent. Ils nous ont dit, compte tenu de la situation exceptionnelle, le dossier, on pourra pas le faire dans les conditions légales, donc on va tout faire de façon illégale. Écoutez bien. Et donc, sous couvert que le dossier a été fait de façon illégale, quand vous arrivez en Angleterre, tout ce qu'ils font, à partir de là, ils disent, nous, on a pris des risques pour vous, maintenant, vous allez nous laisser votre enfant, et nous, on va s'occuper de tout. Mmh. Vous voyez la mécanique, la dynamique qui se met en place. Et donc, bah, vous êtes pieds et poings liés, puisque en fait, ils vous rendent service et tout a été fait dans l'illégalité. Et donc, la maman, naturellement, elle prend peur, elle veut pas entendre parler de la prison, tout ça, puisque, vous voyez, on est dans une manipulation extraordinaire. Mais moi, j'ai quand même un peu plus d'assurance et de discernement juridique. J'ai très bien compris que tout ça, c'était faux. Et quand bien même on a enfreint la loi, moi, je suis pas à répondre de mes responsabilités au prorata de ce que moi, j'ai fait. Et donc, quand j'ai fait comprendre à Chelsea que je comprenais très bien leur manipulation, bah, vous doutez bien que, voilà, ça n'allait pas.
La sanction dont vient d'être victime, ou en tout cas l'objet de Chelsea, la FIFA qui reproche à ce club anglais d'avoir enfreint la réglementation sur le recrutement des mineurs, et donc Chelsea est interdit de prochain mercato, est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que ça vous a aussi peut-être satisfait ?
Ça m'a pas surpris parce que d'abord, Chelsea devait être sanctionnée et je pense que Chelsea devrait être davantage lourdement sanctionnée parce que les faits sont très graves. La FIFA a été obligée de sanctionner, mais je tiens à préciser que nous sommes là dans des sanctions de posture totalement hypocrites parce que les faits sont trop graves pour que la sanction se limite à 2 ans. Je pense que les choses ont été mal faites parce que moi j'ai porté un certain nombre d'accusations, notamment devant le procureur, devant les juges, enfin j'ai informé tout le monde. J'ai dit que effectivement Chelsea, s'agissant des contrats relatifs aux familles africaines et aux minorités, vietnamiennes, tout ça, qui n'avaient pas un contrat de vrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Chelsea fait des contrats avec des familles, mais en même temps, il y a des familles qui sont au sein de Chelsea, qui sont là depuis 2 ans, qui n'ont rien, qui habitent dans des studios. Et donc ceux-là, ils n'apparaissent pas dans le radar de la FIFA. Par exemple, moi j'avais 2 enfants, j'en avais un donc qui avait une licence officielle et le deuxième pour des raisons stratégiques, Chelsea n'a pas voulu. Alors qu'au départ, quand nous on nous a fait venir, c'était dans l'assurance que mes 2 enfants allaient avoir un contrat clair et que tout allait bien se passer. Si c'est ça le football, on peut considérer que les institutions occidentales sont une menace pour les nations du Sud. Vous voyez ? Et donc ce que j'attends, c'est un éclaircissement, c'est la vérité, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les choses ont dysfonctionné, pourquoi est-ce qu'il y a tant de criminalité dans le milieu du football et que ces gens-là disposent d'un droit inaliénable. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a un silence total, je veux dire, depuis 4 ans, excepté vous qui m'avez donné la parole et le journaliste Pierre Barroso du journal de l'équipe, je n'ai rien eu. Mes avocats n'arrivent pas à entendre raison aux autorités judiciaires de leur dire, ben voilà, Monsieur Soglo dit, écoutez, qu'il y a de l'esclavage, là, ils ont... Regardez, à l'issue de la FIFA, ils ont trouvé 70 familles là, qui étaient en captivité au sein de Chelsea, enfin, de dossiers illégaux. Mais personne n'est allé voir ces familles pour leur dire comment ça s'est passé. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si on s'intéressait vraiment et qu'on donnait la parole à ces minorités-là, on en apprendrait des belles. Il y a des mamans qui se séparent de leur mari, qui rentrent dans la manipulation de Chelsea, et donc qui évincent leur mari. Aujourd'hui, ces maris-là sont en Afrique, donc les familles sont déchirées. Aujourd'hui, les femmes, ces femmes-là, elles comprennent très bien qu'en fait, elles sont victimes de la manipulation de Chelsea, mais il aurait impossible de revenir en arrière parce qu'elles n'ont même pas idée de la possibilité d'une reconstruction. Et justement, si vous me permettez, ce que je voudrais dire à ces femmes-là qui sont la pierre angulaire de ce trafic, puisque sans elles, en fait, Chelsea n'a pas d'égalité. Et c'est justement là-dessus que Chelsea joue pour les rendre esclaves.
Bruno, cette condamnation, alors on a entendu ce témoignage poignant parce que évidemment ça implique plein de choses se croisent en l'intérêt des clubs, évidemment cette espèce de presque de trafic qu'il y a autour des jeunes qui peuvent être de futures grandes stars, et puis les parents qui se laissent aussi un peu compter au départ par les clubs, des belles promesses qui ne sont pas tenues. Mais autour de Chelsea, vous qui avez vécu longtemps à Londres, vous aviez entendu des histoires autour des jeunes comme ça?
Oui, parce que Chelsea a une politique de recrutement sur les jeunes qui est extrêmement agressive, qui va au-delà évidemment de l'Angleterre. Il y a eu d'autres cas, il y a eu un cas d'ailleurs, Gaël Kakuta, qui avait rejoint le club à l'âge de, pareil, 12-13 ans. Le Chelsea avait été sanctionné d'une interdiction de recrutement en 2009 de 2 ans à cause de ce cas de Kakuta. Les clubs, avec l'article 19, n'ont pas le droit de recruter des jeunes. La seule manière, c'est si les parents déménagent dans le pays ou la ville avoisinant du club. Et c'est en fait des arrangements où c'est généralement les clubs qui payent le déménagement, qui leur trouvent une maison, qui leur trouvent faut parfois un travail. Et du coup, derrière, ils ne sont pas enregistrés, en fait, à la FIFA ou à la Fédération anglaise, qui est assez laxiste là-dessus. Et ils les font jouer. C'est d'ailleurs le cas de Bertrand Traoré, parce que là, Chelsea est sous le coup d'une suspension, d'une interdiction de recrutement, de deux mercato. C'est pas le cas de ce gamin. C'est notamment Bertrand Traoré, qui avait été recruté à l'âge de 15 ans et qui a joué, fait des essais, en tout cas, des matchs avant même d'être inscrit. Et Chelsea est sur 96 cas. Qui était scruté par la FIFA, il y en a 29 sous lequel Chelsea a commis une erreur d'enregistrement. C'est pas les transferts, c'est les enregistrements et de contrats illégaux. Donc ça prouve bien le problème de Chelsea aujourd'hui. City est également dans le collimateur.
Manchester City, oui, pourrait être sanctionné.
Tout le monde dit
aussi
qu'il devrait être sanctionné également. Donc c'est malheureusement ça existe et Kakuta l'a payé très cher. Et ça revient en fait à le fait d'envoyer des jeunes, des gamins à l'étranger. Dans la plupart du temps, c'est un échec. Et Kakuta, aujourd'hui, il est un peu perdu. Il s'est un peu perdu.
Gilles, on voit ça dans la banlieue parisienne. Oui. On dit que la banlieue parisienne est le plus grand vivier de footballeurs. D'ailleurs, dans l'équipe de France, on le sait, il y en a beaucoup qui viennent de là. Mais du coup, quand il y a des matchs, même des petits matchs, et avec des gamins, et tout de suite, il y a des gens pour essayer de repérer et de repérer en fait le Messi ou le Ronaldo.
10-11 ans déjà sur les terrains franciliens avec des joueurs qui impressionnent mais qui n'ont pas du tout vu leur croissance aboutir, qu'on déstabilise. Alors une entité dont je ne voudrais pas exonérer la responsabilité, ce sont les médias. Et je me mets au premier rang de ça. J'avais fait un article, ça va dire quelque chose à Nabil, un article deux pages dans le Parisien sur le nouveau Zidane, Mourad Megni.
Ah, oui, vous vous en souvenez,
Champs-sur-Marne, Mourad Megni, le nouveau Zidane. J'avais fait deux pages. Je pense que ces deux pages ont, non pas brisé, mais altéré sa carrière. Il est parti en Italie, il a été international espoir, 9 fois international algérien, mais il n'a pas confirmé. Et les médias, dont moi, ont fait de ces jeunes trop tôt, aujourd'hui, des idoles. Il y a un marché aiguillonné par les agents, les clubs, mais les médias doivent avoir plus de recul et je me mets au premier rang de ça.
Oui, c'est la ruée vers l'or. Vous avez raison de rappeler que le bassin francilien est aujourd'hui considéré avec le bassin brésilien de Rio de Janeiro comme le plus grand vivier de joueurs de football de talent. Toutes les semaines, tous les week-ends, vous avez des chasseurs qui viennent de joueurs qui viennent de l'étranger, notamment par exemple les Allemands qui se gavent allègrement sur le potentiel français ces derniers temps. Combien de joueurs ont signé au Red Bull Leipzig? Combien de joueurs ont signé à Salzbourg? Je veux dire, et c'est pas en Allemagne. Donc il y a une forte spéculation sur les jeunes à fort potentiel, mais après il y a une équation économique, Annie, qui rentre en ligne de compte. Moi je vais pas citer le nom du joueur, mais moi j'avais suivi plusieurs dossiers, mais il y en a un qui me vient à l'esprit. On m'avait raconté que la maman avait gagné 700 euros par mois avec 4 ou 5 enfants à élever. Vous avez un gros club qui se pointe, on vous met un jet privé, on vous emmène, comme l'a expliqué à juste titre Bruno, on vous met le tapis rouge. Et on vous dit, faites signer votre gamin chez moi. Et puis, on ne sait pas si ça aboutira.
Vous trouvez un emploi à vous.
Voilà.
Un emploi aux parents.
Après, on ne sait pas si le gamin il va percer, si ça va aboutir. C'est-à-dire que le gamin, il se retrouve presque chef de famille, avoir une responsabilité économique terrible à 17 ou 16 ans. Parfois, il ne réalise
pas. Moins.
Ensuite, se greffe autour de des gens. Parce que je vais vous le dire, autour des stades aujourd'hui en Île-de-France. Tout le monde est agent. C'est-à-dire que les gens ne viennent plus pour regarder les matchs de foot, ils viennent pour regarder les joueurs, ce qui est différent.
Et repérer.
Moi, je le vis, puisque des fois, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, des fois, je vais très souvent au camp des loges. Le camp des loges, j'ai vu une évolution. Aujourd'hui, quand j'y vais, c'est une blague. Je veux dire, mais tout le monde est là pour repérer les joueurs. Il n'y a que ça. Les gens, ils ne viennent pas pour un match de championnat de catégorie jeune. Donc, il y a déjà une évolution. Mais pourquoi? Parce que c'est une question d'argent, tout simplement. Donc, la logique pour cette maman aurait été de laisser son gamin continuer dans son club formateur, donc je ne citerai pas de nom, mais qui est dans le nord de la France, gagner beaucoup moins d'argent. Mais on vient l'avoir, on lui dit c'est 1 million d'euros à la prime à la signature. Vous gagnez 700 euros par mois, mais qu'est-ce que vous faites? Mais n'importe qui y va.
Et ceux qui réussissent, avant il y avait Auxerre comme centre de formation, il y en a en France, mais des centres de formation comme Lyon, hyper structurés, qui souvent prennent dans le bassin régional.
Même Lyon, ils sont attaqués.
Bien sûr qu'ils sont attaqués, mais ils continuent à former, ils prennent dans le bassin régional. Et ils ne prennent à l'extérieur que quand ils n'ont pas dans le bassin régional, pour ne pas que les jeunes soient perdus.
Et retenez ce nom, Ryan Cherki, pépite lyonnaise, qui va être bientôt au cœur de l'actualité, vous verrez.
Oui, et un conseil, c'est ce que disait Barnes dans cette interview, c'est surtout aux parents finalement, méfiez-vous, parce que c'est à eux les premiers, c'est eux les premiers remparts. Oui, je vous entends, Nabil, et parfois peut-être n'ont-ils pas vraiment le choix. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup messieurs, merci aussi à David Finzel qui m'a aidé aujourd'hui à préparer cette émission. Laurent Salerno était à la réalisation. Yann Lomène nous a aidé.